La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Rabelais, son éclat de rire énorme est un des gouffres de l'esprit. Il est l'auteur de Pantagruel, le manger et le boire pour conjurer les peurs, de Gargantua, où l'ambiance change déjà, et aussi du tiers et du quart livre qui tournent au dialogue philosophique, alors que la peur de la guerre religieuse gagne la France, de 1550, une biographie impossible et tentée. Aujourd'hui, par Mireille Huchon, bonjour.
Bonjour.
C'est un livre chez Gallimard, comme il y a plus d'une quinzaine d'années, votre édition solitaire ou quasi des œuvres de Rabelais dans la Pléiade. Je n'ai rien oublié. Pantagruel, Gargantua, le tiers, le quart livre.
Vous avez oublié le cinquième livre.
Ah oui, mais ça, ce sont les brouillons.
L'ouvrage en débat, oui. Brouillon de Rabelais, visiblement rédigé à des périodes diverses de sa vie et que des éditeurs ont mis comme un cinquième livre, comme une fin en quelque sorte de la navigation, mais qui était bien déjà achevée à la fin du quart livre.
La matière ici traitée va-t-elle être aussi folâtre que vous pourriez l'espérer, puisse-t-elle en tout cas être substantifique ?
Amis lecteurs,
avez-vous jamais vu un chien rencontrant un os à boile ? C'est comme dit Platon, la bête la plus philosophe du monde. Si vous en avez vu un, vous avez pu remarquer avec quelle ferveur il le tient, avec quelle passion il le brise, qu'espère-t-il de son travail ? Un peu de moelle. Il est vrai que ce peu est plus délicieux que le beaucoup de toute autre chose, parce que la moelle est un aliment élaboré à force de perfection naturelle. À l'instar de ce chien, il convient que vous soyez sagace pour humer, sentir et apprécier ces beaux livres de haute graisse, légers à la poursuite, hardis à l'attaque. Puis il vous faut, par une lecture attentive et de fréquente méditation, rompre l'os et sucer la substantifique moelle.
Pour dater les grandes publications de Rabelais, ici on est en 1534, 1535, on entendait Maurice Riche dans un feuilleton jamais diffusé d'ailleurs à la télévision, mais préparé pour elle, de Jean-Louis Comolli. Il faut lecture attentive et fréquente méditation. Mais pour dater le jour de sa naissance, il faut davantage encore, parce que le mystère commence là.
Ah ben, le mystère commence là, et puis on n'arrivera jamais, enfin je dis peut-être arrivera-t-on un jour avec des éléments nouveaux à la dater, mais vous savez, on ne sait pas à 20 ans près. On ne sait pas à 20 ans près à quel moment est né Rabelais, 1483, ou peut-être même au début du XVIe siècle. On ne sait pas finalement s'il rentre dans la littérature française à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Est-il mort quinquagénaire, encore fringant, ou septuagénaire, peut-être qu'à Cochim. C'est quand même des immenses interrogations.
Alors, on ne pourrait pas tout le monde d'accord en disant qu'il est né à la fin du Moyen-Âge, qu'il a connu la Renaissance, mais ce sont des catégories qui n'existaient pas pour les contemporains.
Oui, ce sont des catégories qui n'existaient pas véritablement.
Il vivait le temps de l'élargissement des possibles. Et alors, l'élargissement des possibles, on sait ça aujourd'hui, au début du XXIe siècle, c'est l'angoisse qui gagne.
La naissance de Gargantua que Rabelais ainsi raconte.
Gargamel commença à se porter mal du bas. Grand Gousier l'a réconforté honnêtement, pensant que ce fut mal d'enfant et qu'en bref, elle ferait pied neuf.
Peu de temps après, elle commença à soupirer. Soudain vinrent à ta sage femme de tous côtés. L'enfant prit son chemin à gauche et sortit par l'oreille. Dès que Gargantua fut né, ne cria comme les autres enfants. Mie, mie, mais à haute voix s'écria.
À boire, à boire! Comme invitant tout le monde à boire, si bien qu'il fut entendu de tout le pays de Beauce et de Bibarois.
Alors, c'est essentiellement dans le Chinonais, la région de Chinon, que se déroulent les aventures de la plupart des héros. Gargamel, la mère, Grand Gousier, le bon roi, Gargantua. Mais c'est un homme en perpétuel déplacement, en fait, Rabelais.
Oui, ça se passe dans le Chinonais, le Gargantua, essentiellement, parce que les autres ouvrages sont à l'échelle du monde même.
Ils prennent le large.
L'échelle très large pour le quart-livre. Hein. Rabelais, c'est vrai, c'est dans le Chinonais. C'est évidemment lorsqu'il était auparavant moine franciscain, moine bénédictin aussi. Donc il faut revenir peut-être 15 ans avant le Gargantua, lorsqu'il est avec ses amis, par exemple franciscain l'ami, où il s'agit d'un jeune homme ou d'un homme jeune, ou encore combien est-il jeune, qui est passionné de grec, qui est évidemment un personnage particulièrement érudit. On parle de son érudition très tôt, dans ces années 1520, et avec Budet, entre autres. Et il est avec Pierre Lamy et avec Budet, dans une correspondance très importante, qui sera publiée d'ailleurs très tôt, dans les années 30. Et Rabelais fait son entrée, finalement, dans les lettres, comme jeune moine, et jeune moine qui est un jeune moine érudit, dans la correspondance publiée par Budet.
Alors, Fontenelle-Comte, Maïzet, les premières abbayes, ce sont en fait des cercles humanistes où il y a dans la bibliothèque des livres de poésie antique, des livres de droit.
Oui, alors après, si vous voulez, ce petit cercle que l'on a franciscain, on passe à Maïzet, dans la abbaye bénédictine et autour de Geoffroy d'Estissac. Et là, il y a un véritable cercle humaniste avec un certain nombre de personnages tels que Jean Boucher, entre autres. Beaucoup également, mais qu'on avait... aussi dans le cercle de Fontaine-le-Comte, beaucoup de juristes tels que Tiraco, entre autres. Et on a, à ce moment-là, en Poitou, véritablement une sorte d'avant-garde intellectuelle qu'il faut vraiment mettre en avant, et avec également beaucoup un arrière-plan religieux tel que celui de Lefèbvre d'Étaples.
Alors là, vous citez des noms qui sont ceux des chrétiens qu'on appelait les évangéliques. Il ne faut pas entendre le mot comme aujourd'hui. C'était des chrétiens qui n'étaient peut-être pas très cléricaux, qui n'étaient peut-être pas attachés à toutes les formes sensibles et rituelles de la religion, et qui cherchaient un tiers parti, une tierce voie entre les catholiques et les protestants qui commençaient à se cristalliser.
Non, peut-être pas forcément, mais qui voulaient surtout une rénovation, d'un catholicisme qui avait un certain nombre d'excès, et ils souhaitaient une rénovation. Ils souhaitaient aussi un retour au texte, plutôt même peut-être qu'un retour, le fait d'étudier véritablement dans leur texte les évangiles et le nouveau et l'ancien Testament, revenir ou du moins étudier les textes en grec, en hébreu, et d'autre part, ce qu'ils souhaitaient aussi, c'est mettre à la portée de tous les textes religieux par des traductions, et traduire en français et avoir une sorte de relation directe peut-être avec le texte.
Le recours au texte, c'est aussi dans son activité de médecin, parce qu'il va devenir médecin après des études à Montpellier, 1537, il est docteur en médecine de l'université de Montpellier. C'est comme médecin aussi qu'il le pratique. Alors il va éditer Hippocrate, Galien, les grandes sources.
Oui, eh bien, l'humanisme, c'est vraiment retrouver les grands textes. Et il va, entre autres, faire des éditions d'Hippocrate, une édition aussi de Galien, à partir d'un manuscrit grec également. Il lit un manuscrit grec. Et on a véritablement ce souci de l'humanisme, de revenir aux textes antiques, de les publier, de regarder aussi les variantes, entre autres.
L'humanisme, c'est la connaissance totale, et en médecine, c'est la dissection, l'anatomie, aussi bien la botanique, parce que les médicaments peuvent venir des plantes, au Jardin des Plantes de Montpellier, à peu près contemporain pour sa création de la vie de Rabelais, œuvre un ami de Rabelais. Alors, la botanique, toujours Maurice Riche.
Je vous parle d'un temps lointain, un peu après qu'Abel eut été tué par son frère Caïn. La terre, gorgée du sang du juste, se montra, certaines années, si fertile en tout fruit, et en particulier en nèfles, que le nom demeura gravé dans les mémoires, l'année des nefles. Cette année-là, Mars ne tomba pas en carême, la mi-août eut lieu en mai. Vous pensez bien que les gens mangeaient volontiers de ces nefles. C'était d'un bel aspect et d'un goût délicieux, mais il leur arrivait des accidents bien divers. Tous furent atteints d'enflure, chacun en des endroits différents. Les uns s'enflaient du ventre, et leur ventre devenait bossu comme une grosse tonne. Les autres s'enflaient, mais en longueur, du membre que l'on nomme le cultivateur du champ de nature humaine, de telle sorte qu'il l'avait prodigieusement long, grand, gras, gros, vert, et dressé à la mode antique.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Nicole Dessélier, Desdin, c'est l'auteur de cette chanson « Ramenez-moi ma cheminée, prenons-nous ébats, ramenez-moi ma cheminée ». Si on a ajouté une chanson sur le sexe féminin au texte sur le membre viril de Rabelais, c'est qu'il parle mieux du membre viril que du sexe féminin. D'ailleurs, on ne sait rien, ou si peu, Mireille Huchon, non, de sa vie sexuelle
et
sentimentale.
Féminin, hein, vous avez, c'est un monde quand même de flac-con aussi, hein, le monde de Rabelais. Oui, sa vie sentimentale, tout ce que l'on en sait, c'est qu'il y a 3 enfants, il y a un petit Théodule, que les prélats romains, paraît-il, faisaient sauter sur leurs genoux. Donc on ne sait pas bien quand est né ce petit enfant qui a vécu aussi à Lyon. À côté de cela, il y a 2 autres enfants, François et Junie, pour lesquels Rabelais demande une légitimation, qui demande une légitimation auprès du pape. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire de pouvoir avoir ce type d'acte, ce qui suppose que Rabelais était particulièrement bien protégé.
Alors qu'il avait été moine et même prêtre. Et les protections.
Moine et même prêtre. Oui, il avait été moine et puis même ensuite prêtre, sécularisé.
C'est pas sûr.
Mais sécularisé, oui. Donc ne disons pas et même.
mais les protections, parlons-en. Alors il va accompagner des protecteurs jusqu'à Turin, jusqu'à Rome, à 3 reprises. Il vit comme ça dans l'ombre de personnes hautes et puissantes qui elles-mêmes sont dans l'ombre de la cour de France.
Oui, absolument. Ça commence d'ailleurs comme premier protecteur avec d'Estissac en Poitou.
Hein, ça, c'est un évêque.
C'est un évêque. Et Jean Boucher dit d'ailleurs que d'Estissac va pouvoir lui obtenir quelques bénéfices parce qu'on a une course vraiment pour les bénéfices sans cesse chez Rabelais. Et il y a d'autre part les 2 du Bel-Air, enfin, qui sont 2 personnages tout à fait remarquables. L'un est un grand prélat, un de ces grands prélats qui avait tout autour de lui des humanistes, Jean du Bel-Air. Et d'autre part, il y a l'homme de guerre, Guillaume du Bel-Air, qui sera gouverneur du Piémont. Alors, ces 2 personnages ont été vraiment liés à toutes les grandes affaires de l'époque, enfin, les affaires anglaises, les affaires protestantes, les affaires allemandes, auprès de Charles Quint, avec le pape. Enfin, ils sont vraiment 2 personnages particulièrement remarquables,
et qui
font partie du conseil privé du roi.
Qui généralement absolument sont dans la grâce du roi.
Qui sont auprès du roi. Donc Rabelais a été véritablement un de leurs très proches et une sorte même presque d'alter ego. Je trouve qu'avec Jean du Bel-Air, il y a une connivence absolument extraordinaire entre les 2 personnages. Je pense aussi qu'il a été utilisé comme agent à agent secret, certainement pour de nombreuses tâches. Et d'autre part, on voit aussi combien ils ont certainement pris goût à la compagnie de Rabelais et à ces jeux de mots qu'on devait avoir sans cesse et qu'ils sont suggérés.
Un feuilleton de France Culture signé Jacques Tarroni en 1990 imaginait d'ailleurs une visite à Saint-Maur, la demeure idéale que le cardinal du Bellay, évêque de Paris, avait commencé à construire.
Sous Philibert Delorme, oui, qui l'avait.
Et où la conversation se déroule comme vous l'imaginez.
Le duc de Tournemoule. Les ducs de Tournemoule, de Barfesse et de Menuard.
Monseigneur.
Le prince de Gratel.
Monseigneur.
Tu me surprends dans mes heures de lecture. Tu ne pourras jamais dire que je ne t'aime pas. Car j'ignorais ta venue et je me délassais justement avec ton Gargantua. En vérité, les noms que tu as donnés au lieutenant de Picrocole sont plaisants. Il n'y a que toi pour trouver ça. Tu n'es pas seulement le médecin que j'appelle de temps en temps à mon chevet. Je me sers de toi en ton absence, grâce à tes livres. Et te lire me fait un bien. Et surtout te lire à haute voix. Ne le fais-tu jamais ?
Monseigneur,
non, tu as tort. Car si je ne te savais pas médecin et que l'on m'ait seulement donné un de tes ouvrages, je me serais dit, à peine le volume reposé, cet homme-là s'y connaît en guérison.
Vous êtes trop bon, Monseigneur. C'est bien tard que j'arrive chez vous.
J'aime la musique de tes mots. C'est pourquoi j'ordonne parfois à mon secrétaire de te lire à haute voix. Il en ressort la gorge sèche. Le pauvre. Et nous faisons monter alors une carafe de vin. C'est, je crois, recommandé par tes ouvrages.
L'invention de la langue de Rabelais, à laquelle du Bellay rend hommage ici, se situe, dites-vous, Mireille Huchon, dans une période sans égale pour la langue française en général.
Oui, une période sans égale, parce que c'est la naissance véritablement d'une réflexion sur la langue. N'oublions pas que c'est le temps où paraissent, et même la décennie où paraît l'œuvre française de Rabelais, c'est la décennie où apparaît la première grammaire du français. C'est aussi le temps véritablement de grands débats sur l'orthographe. Et Rabelais a pris une part très importante à cela. Il a créé un véritable système grammatical, un véritable système orthographique, et il a véritablement créé une langue d'ailleurs assez artificielle, cherchant à peu près partout, comme d'ailleurs l'avait fait Dante pour essayer de créer un illustre italien, cherchant partout la matière et pour en faire un formidable monde, mais véritablement en
un monde avec des accents, des apostrophes.
Ah oui, si vous voulez rentrer dans le détail, oui, les détails.
Parce que ça apparaît à ce moment-là.
Exactement, les signes auxiliaires, comme vous citez, apparaissent justement dans les années 1530, et Rabelais est un des premiers à les utiliser et d'une part en faire une utilisation qui lui est très personnelle, et il a véritablement souhaité codifier la langue, apporter sa propre contribution. On a un Rabelais grammairien, à coup sûr, et grammairien dans le sens très, très noble du terme.
À coup sûr, dites-vous, une langue de convention qu'il inventerait, mais généralement, on dit qu'il est très déterminé par la langue parlée.
Alors, par la langue parlée, il y a toute une part de création, hein, de mots qui n'ont jamais été, des créations propres. Il y a aussi des tas d'hellénismes, de latinismes que personne n'avait jamais utilisé avant lui. Donc, on a véritablement une langue qui est une langue d'artifice. Et je crois que ce que l'on pourrait peut-être voir comme comparaison, c'est ce que vous avez avec Novarina. Novarina, de la même façon, vous avez l'impression que c'est une langue parlée, mais c'est une langue que personne ne parle jamais ainsi. Donc c'est une langue qui passe par l'oral, certes, mais qui est une langue, comment dire, inouïe au sens, inouïe véritablement. Et personne n'a jamais parlé comme on parle chez Rabelais. Et ce qui fait que je crois que l'ouvrage était aussi difficile à lire, peut-être plus difficile à lire au XVIe siècle qu'il ne l'est actuellement, et qu'il faut le lire à voix haute et se laisser emporter par ce flot.
Alors on dit que parmi les plus difficiles à lire, même dans votre excellente édition de la Pléiade, sont le tiers et le quart livre. On va en venir, si vous le voulez bien, maintenant à la dernière période, au deuxième versant de la vie de Rabelais, à ces années 1540, qui voit disparaître certains de ses protecteurs, Guillaume du Bellay, par exemple, qui voit Calvin s'installer à Genève. C'est la polarisation catholique-protestant qui s'aggrave. Le Concile de Trente ouvre, qui prépare la réforme catholique. Et en 1546, Étienne Delay, son ami, autour duquel il avait banqueté peu d'années auparavant, même s'il s'était un peu fâché après, et supplicié place Maubert. Et puis le tiers-livre, au moment de sa publication hâtive, en 1546, va être condamné par les théologiens de la Sorbonne. La situation devient difficile, donc, pour Rabelais.
Je pars.
Tu pars encore ? 2 ans à Montpellier avec toi à la faculté de médecine ? Je ne savais pas quel était mon bonheur de te voir tous les jours. Depuis, je t'ai croisé 2 jours à Lyon où tu partais pour l'Italie, une demi-journée à Poitiers où tu changeais de cheval pour Chinon, enfin à Paris l'an dernier où tu m'abandonnas au bout d'une heure pour galoper vers la Belgique. Quelle fuite !
Tu dis vrai, je fuis.
Et tu abandonnes lâchement tes amis.
Je suis plus lâche encore avec mes ennemis.
Tu en as donc beaucoup ?
Ils sont peu nombreux mais puissants. Ils siègent au Parlement où sont théologiens en Sorbonne. C'est à l'écrivain qu'ils en veulent.
Alors jusqu'ici, il avait bénéficié de protection, surtout qu'il était dans le droit fil de la pensée royale. Et là, ça va s'aggraver pour lui.
Alors pour le tiers-livre, oui, il est obligé de partir et de s'exiler à Besse, coup sûr, puisqu'il avait après la condamnation. Mais pour le quart-livre, là encore, on va avoir des protections.
Hein. Alors le quart-livre, c'est un peu plus tard.
C'est un peu plus tard, oui.
Donc vers 1548, 1558, 1552.
Et le quart-livre apparaît un peu comme un ouvrage qui reprend là encore la politique des Dubellay, de Jean Dubellay, et qui est un livre anti-concilaire, contre les conciles, et qui est une sorte de brûlot anti-papal, mais qui sert la politique royale, là, une fois encore. Même chose d'ailleurs pour le quart-livre, qui sera un temps interdit par le... Enfin, dont la publication sera stoppée pendant une quinzaine de jours, mais qui ensuite pourra être... diffusé, parce que là encore, ce sont des ouvrages qui font l'apologie de la royauté et qui servent la politique contemporaine.
Oui, alors quand on attaque le pape à la manière de Rabelais, ça ne veut pas dire du tout qu'on penche du côté protestant, on penche du côté gallican, c'est-à-dire du côté royal, le roi de France voulant une église catholique, mais relativement indépendante de Rome.
Absolument. Et dans les années 1550, d'ailleurs, le pape avait voulu excommunier Henri II. Il y avait une sorte de lutte entre Henri II et le pape qui était vraiment très, très forte. Et être contre le pape, ce n'était absolument pas justement être athée, ou comme on a pu le dire.
Non, c'est être du côté du roi.
C'était être
comme souvent Rabelais.
Exactement.
Le quart-livre, donc nous sommes dans les années 1548 pour la première édition, 1552, l'itinéraire est le même pour les compagnons de Rabelais que celui de Jacques Cartier, dont Rabelais est un contemporain et qu'il a peut-être connu directement.
Pantagruel ayant pris congé de Gargantua, parti du port de Talas, près de Saint-Malo, accompagné de Panurge. Soudain la mer commença à s'enfler, à tumultuer du bas abîme. Le ciel tonnait du haut, foudroyé, éclairé, pleuvoir, grêlé, l'air perdre sa transparence, devenir opaque.
Et tous aperçurent un grand et monstrueux physistère, serpent de mer, venant sur le navire, plus haut que les lames, jetant l'eau de la gueule comme s'il fût grosse rivière tombant de quelque montagne.
Par le conseil du pilote furent sonnées les trompettes, Pantagruel criait
« N'ayez pas peur, par moi sera percée cette bête !»
On remarque peu que ces navires sont habillés d'or.
Oui, alors ça, le problème avec Rabelais, c'est que c'est pareil pour le Gargantua, auparavant, et pour le Pantagruel, c'est véritablement un travestissement de l'actualité contemporaine. Et j'allais dire qu'il y a un côté aussi, un canard enchaîné chez Rabelais.
Évidemment, vous dites ça parce que votre livre chez Gallimard, Rabelais, Mireille Huchon, a été chroniqué par le canard
tout,
enchaîné.
Et
le canard enchaîné a dit « c'est un de nos collaborateurs ».
Oui, c'est un de nos collaborateurs, bon. Parce qu'après avoir lu la biographie, oui, ils se sont rendus compte que c'était véritablement un de leurs collaborateurs. Et oui, donc travestissement de burlesque et de la du contemporain, de l'actualité, et alors tout particulièrement la lutte avec Charles Quint. La lutte avec Charles Quint qu'on trouvait déjà dans le Gargantua et qu'on trouve là à propos du Nouveau Monde, parce que il faut bien comprendre la chose suivante, c'est que Charles Quint avait finalement conquis le Nouveau Monde, l'or du Nouveau Monde venait en quantité.
Espagnols ramenaient l'or.
Et il y avait véritablement là quelque chose d'assez extraordinaire.
Mais tandis que les bateaux de Rabelais sont couverts d'or.
Alors, ce qui se passe, c'est que là, face à cela, et on le voit très bien, dans les années 1540, au contraire, toutes les conquêtes qu'on a essayées sur le Nouveau Monde ont été des échecs. Et il y a une sorte de jeu presque qui fait qu'on va traiter cela par la dérision et que, d'autre part, alors il va y avoir dans les car-livres, il y aura par exemple les Argonautes. Ce n'est pas finalement l'itinéraire de Jacques Cartier qui va être pris par les héros rabelaisiens, mais c'est l'itinéraire des Argonautes après la conquête de la Toison d'Or. Donc ça permet des éléments tout à fait mythiques. Et donc on a là véritablement une sorte de jeu sur l'or. Et alors pourquoi finalement l'or, c'est intéressant de voir que tous les bateaux qui partent vers le Nouveau Monde, vers le monde de Rabelais, sont couverts d'or, parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher l'or. On va le faire en quelque sorte, on va le faire en France.
Par l'alchimie.
Et entre autres, par l'alchimie, qui a un énorme développement de façon générale dans les années 1540, entre autres dans l'aristocratie, alors qu'il faut bien voir aussi que par ailleurs, l'alchimie, et Rabelais a certainement été un alchimiste, se faisait aussi dans le secret du cabinet. Donc on a des jeux très, très intéressants à ce propos.
Un alchimiste et puis aussi un astrologue, mais attention, un astrologue au sens chrétien du mot, Dieu influe sur le cours des astres, et il ne faut pas imaginer les pronostications comme on le fait souvent.
Emmenés, les aveugles ne verront que bien peu, les sourds verront assez mal, les muets ne parleront guère, les riches se porteront un peu mieux que les pauvres et les saints mieux que les malades. Vieillesse sera incurable cette année à cause des années passées. Il règnera quasi universellement une maladie bien horrible et redoutable, maligne, perverse, épouvantable et malplaisante. Je tremble de peur quand j'y pense, car je vous dis qu'elle sera épidémiale. Il appelle la Verroès, cette colliguette, faute d'argent.
Oui, alors, on a laissé Rabelais au car-livre, qui est publié avec privilège juste un an avant sa mort pour la dernière édition. On n'a pas parlé des pronostications. Alors, il a fait des almanachs.
Alors, il a fait des almanachs parce qu'il était mathématicien et astrologue. Il a fait des différents almanachs et entre autres la Pantagruélienne pronostication qui est un jeu finalement sur l'avenir et sur le fait d'essayer de savoir ce qu'il en est donc des prédictions. Mais s'il s'agit donc d'une astrologie divinatrice, le jeu sur l'astrologie divinatrice, car à côté de là, on a une astrologie savante à laquelle il tient. La Pantagruélienne pronostication, c'est finalement contre la curiosité, contre le désir de nouvelles qui est partagé par tous. Et le prologue d'ailleurs commence par le fait que les Français veulent absolument avoir des nouvelles qui viennent de l'étranger, que bruit-il dans le monde. Ce que dit Rabelais, c'est qu'il faudrait finalement mettre à l'entrée du royaume des sortes de personnages à gages qui regarderaient s'il y a vérité dans ce qui est dit ou non. Et c'est ainsi d'ailleurs que Pantagruel avait fait dans son pays d'utopie pour savoir s'il y avait vérité donc de la nouvelle que l'on nous fournit.
Jean-Philippe Jeanne et Basile Beaucaire à la technique, Jacques Sigal à la réalisation, Camille Poux-Jalaguier, Clarisse Le Gardien, Franck Olivard et Frédéric Martin pour la préparation de cette émission consacré à Rabelais. Sur notre site, on trouve vos indications bibliographiques, l'édition de la Pléiade il y a quelques années, puis votre Rabelais, toujours chez Gallimard, qui lui vient de paraître.